surmonter le stress et éviter le burn-out. Est-ce possible? Eh bien, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, des signes notamment avant-coureurs de ce fameux burn-out, de certaines techniques pour réduire le stress, de parcourir ensemble quelques stratégies de prévention et nous terminerons par l'impact positif que peut avoir notre environnement sur tout cela. Et encore mieux quand il est qualifié de sain, ce fameux environnement. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre-temps est le podcast qui est fait pour vous. Nous allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps, et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour à vous, très heureux d'être ici avec vous, c'est toujours Jean-Claude Blémont derrière le micro, et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de vous en parler, pas forcément par le sujet, mais par cette information, plus de 500 personnes m'ont déjà écouté et ça je trouve ça magnifique et je voulais vous en remercier énormément. J'espère que l'information que vous recevez, les conseils, les avis, mes points de vue, qui ne sont peut-être pas les vôtres, mais mes points de vue sur certains sujets, eh bien, vous permettent de retrouver du temps pour vous, moins de stress et plus de sérénité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est brûlant. J'ai encore regardé très récemment les statistiques, c'est, je vais dire, presque à pleurer, hein, quand on voit le nombre de personnes, le pourcentage de la population active, uniquement celle-là, la population active, qui est stressée, qui sont des candidats au stress, et voir, on sait que le burn-out, c'est par le stress que ça commence, eh bien, c'est impressionnant. On parle entre 13 et 15% de la population active qui est à risque et plus d'1%, et ça, je pense que c'est très bas comme fourchette, qui a ou qui fait un burn-out avec 6% de cette population qui sont réellement sur le chemin de ce burn-out. Alors, aujourd'hui, pourquoi vous me dites peut-être, Jean-Claude, tu nous parles de burn-out dans un podcast sur le temps? Eh bien, on va découvrir, je vais vous faire découvrir que la gestion du temps, que la gestion surtout de son emploi du temps et de comment on utilise son temps a un effet énorme sur votre niveau de stress. Et ce que je viens de vous dire, c'est que le stress est la route qui conduit au burn-out. Il y a bien entendu d'autres sources, on ne va pas les voir d'une manière psychologique, mais j'aimerais quand même sensibiliser sur des choses qui sont finalement relativement simples à mettre en place et qui peuvent réellement réduire au moins votre stress quant à l'utilisation de votre temps. Bientôt 65 ans, et oui, le temps passe vite, j'ai toujours pas de burn-out. Oh oui, j'étais stressé, et j'ai vu pas mal de personnes stressées, et je vais vous conter tout ça dans quelques instants. Alors des personnes stressées dans ma carrière de près de 40 ans, oui j'en ai vu. Un chef de production, par exemple, qui déboule dans mon bureau et qui me dit « Jean-Claude, je suis en train de produire des tonnes de produits, on ne va pas donner la marque, et je ne peux pas les faire rentrer dans l'entrepôt. » Je dis « Comment ça se fait ?»« Je ne sais pas, il n'accepte pas le code. » Je dis « Tiens, on va aller voir directement dans le système. » Ben voilà, il avait produit sans, à un certain moment, suivre les procédures, donc le produit n'était pas créé administrativement. Voilà, stress parce qu'on ne suit pas ou la procédure est peut-être mal comprise. J'ai rencontré une directrice du marketing qui était complètement paniquée parce qu'elle, gestion des produits, avait décidé à un certain moment de lancer ou de changer la structure d'un produit et elle n'était pas informée. Donc toute sa campagne sur notamment la quantité de sel qui était retrouvée n'était pas adéquate, vous imaginez. Un gestionnaire de logistique qui n'a plus assez de palettes pour pouvoir stocker les produits qui entrent. C'est assez incroyable. Mais c'est un manque de planification, un manque de communication. J'ai même vu une directrice des services juridiques qui stressait parce qu'elle ne savait pas comment, à un certain moment, faire passer le message de l'importance de ce département lorsque l'on signe des contrats. Et pas mal de contrats dans la société étaient signés sans faire référence au département juridique, ce qui veut dire que la porte était ouverte à tout et n'importe quoi. Donc voilà quelques exemples pour vous dire que le stress peut naître de toute une série de sujets variés et divers, mais que souvent ils viennent d'un stress concernant le manque de temps, des procédures qui ne sont pas comprises ou compliquées, un manque de communication, voire de collaboration, et le travail en silo, qui veut dire qu'une personne fait quelque chose sans que l'autre ne le sache. Alors ça n'arrive pas qu'aux petits, comme on dit. Ce stress et ce burn-out touchent à la fois les travailleurs, les employés, ce qu'on appelle le middle management, et aussi le top management, la direction, voire même les propriétaires, les patrons de très grandes boîtes. Et il y en a un, entre tous, qui a réellement connu pratiquement un burn-out duquel il n'en serait pas revenu. Et cette personne, vous la connaissez, alors on peut l'aimer ou pas, ce n'est pas le débat ici, mais il s'agit d'Elon Musk, le fameux patron, entre autres, de Tesla et de SpaceX. Et en fait, il est connu, Elon Musk, pour son éthique de travail, si on peut dire que c'est une éthique qui est exceptionnellement rigoureuse. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui est souvent cité dans des revues de management comme pouvant finalement travailler jusqu'à, tenez-vous bien, 120 heures par semaine, notamment quand il y a eu des périodes très critiques dans ses entreprises. Si vous vous souvenez, aux alentours des années 2018, il a eu une période intense de travail, notamment parce qu'il avait rencontré des problèmes dans la chaîne de production de son nouveau modèle Tesla. Et en fait, il a été soit très proche du burn-out, soit il en a fait un, c'est pas très clair, mais il a décrit réellement cette période comme étant une période très très difficile pour lui. Et il révèle notamment dans une interview au New York Times qu'il a passé mais réellement des nuits entières dans l'usine Tesla pour simplement résoudre des problèmes sur la chaîne de production. Ouais, m'entendez bien, sur la chaîne de production. Et donc, Elon Musk a admis en fait que cette charge de travail, eh bien, elle avait un coût personnel significatif. Trop travailler à un certain moment occasionne un manque de sommeil. Et si vous vous souvenez, on a parlé, le manque de sommeil, c'est un cercle vicieux parce que vous manquez de sommeil, vous n'allez pas être au top, ça va vous prendre plus de temps, vous allez devoir investir plus d'efforts, voire faire le même activité, mais surtout, bien, ça a un impact sur sa santé et voire même sur ses relations. Quand vous avez une personne, si vous avez travaillé déjà avec une personne qui est stressée, mais dans un stress chronique, eh bien, pour en rien, elle démarre au quart de tour. Donc, les relations avec ces personnes-là sont très délicates et ça mène souvent au surmenage et à un certain moment à un déséquilibre complet entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors cette petite histoire, eh bien, je pense que vous avez déjà la clé, c'est que c'est bien le succès, mais qu'il ne peut en aucun cas justifier la perte du bien-être. Imaginez que l'issue vous soit fatale, ça vous sert à quoi d'avoir eu tout ce succès ? Vous ne partez pas avec toute votre entreprise, ni vos dollars, ni vos euros en poche lorsque le dernier moment est arrivé. Alors réfléchissons. Et si nous parlions maintenant un peu de quels sont les signes, je vais dire précurseurs, du stress, ça je pense que c'est plus facile, mais du burn-out. Un peu comme si on avait une liste de reconnaissance, c'est pas médicalement prouvé, mais c'est quand même fortement indiqué. Ce sont des signes qui peuvent mener au burn-out. Tout d'abord, des changements d'humeur assez fréquents. Vous remarquez peut-être que vous passez rapidement de la frustration à l'anxiété, vous êtes irritable, plus que d'habitude, et c'est surtout l'effet variation. Vous n'êtes pas constant. Et parfois, rien peut vous faire décoller. Ça, c'est quand même un indice de stress. Mais aussi, si vous êtes fatigué d'une manière, je dirais, permanente. Il y a d'autres maladies qui, effectivement, ont ces symptômes, comme une certaine anémie, par exemple. Mais ici, si vous vous sentez constamment épuisé, même après une bonne nuit de sommeil, ça peut indiquer un niveau de stress élevé. Un point que j'ai remarqué très souvent chez les personnes qui étaient stressées dans mon environnement, Heureusement, j'en ai pas eu de trop dans mes équipes, parce que j'en prenais soin, mais ça peut arriver. C'est une baisse de productivité. C'est réellement une réduction, je dirais, qui se note de l'efficacité quotidienne. C'est une difficulté, finalement, à terminer les tâches. On a pas mal de choses ouvertes et on n'arrive plus vraiment à les gérer, à les terminer. Et en fait, en plus, cet effet de ne pas terminer ces tâches, nous l'avons vu précédemment, c'est aussi une source de stress. Ce qu'on remarque également chez les personnes qui, je dirais, s'approchent du burn-out, c'est ce qu'on appelle un peu un retrait social. C'est vraiment un désintérêt pour les interactions sociales. On a tendance à se recroqueviller, à ne pas vouloir avoir trop de contacts. Pourquoi? Parce qu'on a peur que ces contacts vont donner éventuellement plus de travail, ou plus de complications, ou plus de problèmes. Et donc on en a déjà assez, on n'en veut pas de plus. Et ce phénomène ne se limite pas, bien entendu, qu'à la sphère professionnelle. On la retrouve également dans la sphère privée. Et ça, c'est vraiment un signe d'alerte. Alors, on l'a vu, ben, on est anxieux, on est continuellement préoccupé. On ne sait parfois pas trop de quoi on est préoccupé, mais c'est une anxiété par rapport à la fois au travail, aux responsabilités, au temps. Et ça, on va en parler. C'est surtout la partie qui est pour moi la plus importante. C'est le stress qui est lié à l'impression que nous n'avons pas assez de temps. Or, ce n'est pas la réalité. Le temps est disponible, mais souvent, très souvent, nous l'utilisons mal. Et en plus, lorsqu'on est stressé, on aggrave encore cette situation. On peut retrouver parfois aussi, et j'ai eu l'occasion de le vivre avec certaines personnes de mon équipe, qui était pour moi un déclencheur de me dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est réellement quand les personnes, eh bien, ont un peu du cynisme par rapport à des objectifs, par exemple, ou vous les sentez complètement détachés. Pour eux, voilà, c'est comme si vous souffliez dans un tuba, ils n'en ont rien à faire. C'est vraiment un sentiment de détachement par rapport à leur travail. Et ce qui est terrible, c'est que souvent, ces personnes, eh bien, ont des pensées plus que cyniques. Ils tournent parfois à des pensées négatives, à la fois sur leurs tâches et sur comment fonctionne le département. Et ça peut être très dangereux. D'abord, c'est dangereux pour eux, mais c'est contagieux. C'est-à-dire qu'il va un certain, enfin, cette personne-là va instantanément pourrir également l'ambiance dans votre département. Dans le département, dans l'équipe, dans le groupe. Donc c'est réellement un signal également très très visible. Et ça entraîne en fait ben, simplement une diminution de cette satisfaction que l'on a à faire les choses. On se sent continuellement insatisfait de notre travail. Et par là même, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on ne termine pas les choses, on ne les fait pas correctement, on n'a pas l'énergie pour les faire d'une manière parfois professionnelle. Et là, qu'est-ce que l'on a? C'est maintenant le patron qui n'est pas satisfait, le chef, le manager. Et là, on y rajoute une couche et donc on entre dans un cycle vicieux. Mais tout ce que je viens de vous conter a également des répercussions sur notre santé physique. Et souvent, les personnes qui ont énormément de stress ont fréquemment des douleurs musculaires, vous savez, dans le haut de l'épaule, comme si on vous plantait un poignard entre les omoplates ou bien réellement en dessous de l'épaule, ou alors des maux de tête fréquents, et voire même des troubles digestifs. Ça peut se traduire par un certain moment un transit intestinal qui est réellement complètement désorganisé. Alors face à tout cela, nous ne sommes pas impuissants, bien au contraire. Et le premier point que j'aimerais partager avec vous, il est valable à la fois pour le manager, le chef, et pour la personne qui est en train de vivre ce stress énorme. Et ce point est très simple, c'est l'écoute active. Alors si c'est le chef, si c'est le manager, c'est de bien écouter, d'écouter d'une manière active, je dirais même avec le terme bienveillant, ce que votre collaborateur a à vous dire. Il vous passe un message. Bien sûr, il ne va pas vous dire, hey chef, je suis stressé, je vais au burn-out. Non, bien sûr, il ne va pas vous dire ça, il ne va pas se dévoiler. Mais grâce à votre écoute active et presque empathique, eh bien, vous allez pouvoir détecter que quelque chose ne va pas, surtout si vous connaissez les gens de votre équipe au moment où ils vont bien, parce que c'est aussi ça de l'important. Mais pour la personne elle-même, eh bien, cette écoute active, c'est l'écoute de son propre corps. C'est de pouvoir détecter tout ce que je viens de vous raconter, tout ce que je viens de vous dire. Ces maux de tête, ces mal à l'épaule sans avoir fait réellement de sport ou bien d'effort physique particulier. Donc ça, c'est une première activité qui ne coûte pas grand-chose et qui peut déjà, non pas soulager, mais de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, c'est déjà de prendre ce que moi j'appelle des pauses stratégiques. C'est parce que je commence à ressentir que mon corps me donne des messages, je l'écoute. Et quand je travaillais, tout au début, j'avais pas mal de stress parce que je débutais dans mes activités. Il y avait des attentes assez énormes sur ce que je devais faire. Je vous avais dit, j'ai évolué rapidement dans la société, donc j'avais encore des activités de programmeur, de chef de projet, alors que je gérais un département. Mais ce que j'ai su faire assez rapidement, c'est de savoir quand je devais m'arrêter et prendre mes congés. Parfois, c'était un petit week-end prolongé, mais quand c'était les grandes vacances, oui, je sais, on appelle les grandes vacances, je vais vous dire tout de suite pourquoi je les appelle les grandes vacances, parce que je demandais 3 semaines. Je m'allouais 3 semaines. Alors, certains me disaient, c'est énorme 3 semaines, c'est vrai, c'est énorme. Mais voilà un peu comment je les répartissais ces 3 semaines. Tout d'abord, lorsque vous arrêtez un travail assez intensif et que vous êtes en congé, vous n'êtes pas normalement en congé tout de suite. Ça, toute une série de choses continue à tourner dans votre tête. Et donc moi, je m'allouais 3 ou 4 jours avant de réellement partir sur mon lieu de vacances. Et ça me permettait un peu de revenir à une situation un peu normale. Et réellement, s'il y avait des petites choses qui manquaient, on pouvait encore éventuellement me joindre si c'était nécessaire. Ensuite, 2 semaines de vacances réelles. Là, on partait à l'étranger, par exemple. Et je m'arrangeais toujours pour revenir 3 ou 4 jours avant de reprendre le boulot, simplement pour me préparer et préparer au mieux ma rentrée et de telle sorte que ça se passe d'une manière un peu plus soft et fluide. Personnellement, je n'ai pas eu à le faire, la recherche d'un soutien d'un psychologue ou bien d'un coach professionnel, je n'ai pas eu à le faire, mais je l'ai proposé à certains de mes collaborateurs, bien que quelque part je pense que j'aurais pu jouer ce rôle-là, mais il y avait quelque chose d'important à savoir, et que j'ai découvert et que j'ai appliqué, c'est que vous êtes quand même encore toujours le chef, et que c'est très difficile pour un collaborateur d'avouer à son patron, à son chef, à son manager que quelque chose ne va pas. Pourquoi ? Parce que ça peut être perçu par lui ou elle comme un aveu de faiblesse. Et ça, il y a très peu de personnes qui veulent le faire. Donc si on a une personne tierce, c'est très très intéressant. Ce que j'ai recommandé et que je recommande encore aujourd'hui de plus en plus, parce que je les pratique moi-même et j'ai découvert ça très tard, je dois bien l'avouer, c'est des activités, des pratiques telles que la méditation, par exemple. C'est quelque chose qui vous permet de vous calmer, de vous recentrer, c'est énorme. Alors beaucoup de personnes me disent, oui, mais bon, il faut être un peu expert. Non, c'est pas vrai du tout. Il y a des méditations qui peuvent déjà se faire simplement en se focalisant sur la respiration et éventuellement en récitant un mantra pour éviter d'avoir des pensées perturbatrices. Mais ça peut déjà énormément vous aider. Donc, ne soyez pas effrayé par la méditation, par le mot, par tout ce que cela représente, les connotations. C'est un outil que je peux uniquement vous recommander de le faire si j'avais pu le faire plus tôt, que cela aurait été fantastique. Mais également, de l'exercice physique régulier. Et moi, ce que j'ai réellement imbriqué dans mon agenda, c'est la marche. Je ne suis pas très fort pour courir, mais marcher, ça, c'est énorme, j'aime beaucoup. Et en plus, si je peux le faire dans un environnement boisé, ça, c'est très très important. Et également, si vous avez des passe-temps, eh bien, des passe-temps, ça va vous relaxer. Vous allez penser à autre chose. Pendant que vous le faites, vous êtes complètement absorbé par cette activité et ça donne un break à votre cerveau, un break à votre stress, ça vous repose. Alors, je n'aurais pas été complet si je ne vous avais pas parlé de l'amélioration de votre emploi du temps. C'est une des composantes du stress, c'est d'être stressé par le temps, mais pas forcément par le temps, par l'utilisation non efficiente de son temps. Et ça, c'est un sujet que j'adore et que je vous passe, donc n'hésitez pas à améliorer votre utilisation de votre temps, ça c'est très important. Et je terminerai avec quelque chose qui est très difficile à faire, et ça, votre serviteur l'a expérimenté, c'est de se définir des limites. des limites saines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez écouté l'épisode où je vous parlais de mon propre stress et de comment je l'avais combattu. Eh bien, une des solutions que j'y ai apportées, je pense, pour éviter effectivement le burn-out, c'est de me mettre des limites. Parce qu'à un certain moment, il n'y avait plus de limites. Je commençais très tôt, je finissais très tard, je dormais très mal. J'ai dit, oh, stop, il y aura une limite dans ma journée de travail. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, alors que je suis indépendant, je me mets ces limites parce qu'elles me donnent la possibilité à un certain moment d'arrêter et de faire quelque chose d'autre. Que ce soit de la lecture, soit un peu de sport, simplement être avec la famille ou me détendre, c'est cela aussi, avoir un bel équilibre entre vos moments de travail et vos moments, je dirais, de détente. Quand on est stressé, il y a certaines techniques qui sont relativement efficaces pour diminuer le niveau du stress. Je ne vais pas dire qu'il va l'éliminer, mais il va réellement, durant une période, parfois plus ou moins longue, il va le réduire. Donc ce que je vais vous parler maintenant, c'est de trois techniques qui ont fonctionné pour moi. L'une, je vous en ai déjà parlé, c'est la méditation. En fait, qu'est-ce qu'elle fait la méditation? Elle aide simplement à recentrer votre attention et surtout à réduire le flot de pensée. Alors, la méditation, c'est pas ne penser à rien. Parce que déjà, penser que je ne pense à rien, c'est penser. Donc, c'est pas ça que l'on veut dire. Mais il faut savoir qu'on a entre 40, 60, 70 000 pensées par jour. C'est énorme, hein, c'est énorme. Et donc, la méditation permet justement de réduire le flot des pensées. Et moi, je la vois un peu, cette méditation, comme c'est comme quand vous voyez dans le ciel des nuages. Les nuages viennent et puis vous les laissez passer. Donc, ce n'est pas de ne pas avoir de pensées, c'est effectivement, les pensées vont venir, mais vous ne vous y attardez pas, vous les laissez passer, et vous essayez de revenir à votre concentration. Sur quoi? Eh bien, c'est sur le deuxième point que vous pouvez utiliser, qui peut être fait avec de la méditation, mais qui peut être fait seul, c'est ce qu'on appelle les respirations profondes. Alors, il faut savoir que nous respirons, mais nous respirons très mal. Souvent, d'une manière générale, pendant la journée, nous respirons, mais d'une manière incomplète. Et donc ici, l'idée, c'est pendant quelques minutes de faire des exercices de respiration profonde. C'est vraiment une technique de respiration, hein. C'est de respirer très profondément. Vous allez voir que vous allez faire bouger votre diaphragme et vous pouvez à ce moment-là faire une respiration qui va aider à calmer quoi, votre système nerveux. Et c'est le système nerveux, on l'a vu un peu avec le nerf vague, si vous vous souvenez, eh bien, il va réduire votre niveau de stress. Alors ça peut être relativement temporaire, mais ça vous permet de retrouver un certain moment du calme et de pouvoir avancer. Alors pour certains m'ont dit, c'est quand même un terme assez barbare, je ne trouve pas, mais enfin je vous le soumets, c'est la pleine conscience. Quand ils ont dit que c'était barbare, c'est qu'ils ne comprenaient pas très bien ce que c'est. Et c'est aussi simple que simplement être présent dans le moment présent. C'est d'être engagé réellement dans ce qui se passe maintenant. La pleine conscience, qui est, comme le dit Eckhart Tolle, la puissance du moment présent, c'est de dire le moment qui est le plus important, c'est le moment que je vis maintenant. La personne qui est la plus importante, c'est celle avec qui je suis maintenant. Et l'activité qui est la plus importante, c'est celle avec laquelle je suis occupé maintenant. Et si vous vous recentrez sur le moment présent, sur ce que vous êtes réellement en train de faire, il se passe un phénomène qui est celui-ci. C'est que vous quittez vos pensées du passé ou du futur. Et donc, vous êtes réellement dans le présent. Et il faut savoir qu'une grande partie du stress vient de ce que l'on pense du passé ou ce que l'on pense du futur, l'un avec des frustrations, des regrets, l'autre avec de l'anxiété, et donc ça crée un niveau de stress sur des choses que, un, du passé, vous ne pouvez plus changer, et deux, du futur, que vous ne pouvez pas encore définir, puisqu'elle n'existe pas, et c'est vous qui allez éventuellement créer votre propre futur. Donc voici trois petites techniques qui sont très efficaces, je les ai testées pour vous. La méditation, même simple, les respirations profondes Et même si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, mais ça c'est un peu plus avancé. Et simplement la pleine conscience, c'est-à-dire d'être réellement dans le temps présent. Vous allez voir, simplement ces trois éléments vont déjà faire des grandes différences par rapport à votre niveau de stress. Je vous ai donné les trois trucs. Je vais brièvement vous dire comment moi je les ai appliqués, mais vous pouvez réellement commencer de la même façon. Et ce qui a super bien marché pour moi, c'est de commencer petit, pas à pas. Je n'ai pas commencé avec les trois. Et surtout quand j'ai commencé la méditation, c'était des petites périodes de 5 ou 10 minutes parce que je n'arrivais pas à éliminer ces flots de pensées. Et puis après, je me suis rendu compte que je ne devais pas les éliminer, mais simplement les laisser passer. Et donc ça demande un peu d'exercice. Quand on n'a jamais fait un exercice, c'est un peu délicat. Eh bien, la méditation ou la respiration profonde, c'est la même chose. Mais commencez petit. Ne faites pas, par exemple, des respirations. Enfin, vous pouvez, hein, mais faire des respirations profondes toutes les heures. Commencez déjà par en faire quelques fois sur la journée, vous allez déjà remarquer l'effet bénéfique après une séance d'exercice. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la régularité. C'est un peu comme quand on apprend un instrument de musique. J'ai appris la clarinette et si vous ne jouez pas, ne fût-ce que 10 ou 15 minutes tous les jours, eh bien votre professeur, à la fin de la semaine, il va voir que vous n'avez pas réellement travaillé. 2 heures le samedi, juste avant d'aller passer son cours, c'est pas la même chose que d'avoir travaillé toute la semaine 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de répétition. Et l'effet de répétition, bon, bien sûr, dans mon cas, la clarinette, c'était le doigté qui s'améliorait, mais également mon sillon cérébral, où il y avait les notes, mais également les doigtés qui petit à petit s'imprimaient de plus en plus. Et donc ce sillon qui était finalement sollicité 6 ou 7 fois sur la semaine par rapport à une fois, eh bien vous voyez directement la différence. La dernière chose que je voudrais vous dire, et c'est ce que je fais énormément lorsque j'ai l'occasion d'être le mentor d'une personne ou bien de faire une formation, c'est la personnalisation. Vous êtes unique. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, vous êtes unique. Et voyez ce qui fonctionne pour vous. Ce n'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionne pour vous. Mais des choses qui vont fonctionner pour vous, ça ne fonctionnera peut-être pas pour moi. Simplement parce que vous êtes un individu, vous êtes unique et que il faut personnaliser. Quand je dis il faut, vous n'êtes pas obligé, mais vous allez voir, si vous personnalisez, ça va être beaucoup plus efficace parce que ça va réellement répondre à votre besoin. J'ai eu beaucoup de chance aussi de découvrir toutes ces techniques et j'ai eu à cœur de les faire découvrir aussi aux gens de mon équipe. Parce que lorsqu'on est en entreprise, si on travaille en isolation, ben je vais aussi, par exemple, je peux avoir un agenda super bien structuré, par exemple. Si je n'ai pas des techniques pour éviter que je sois dérangé continuellement par les membres de l'équipe parce qu'ils ont une question ou ils veulent simplement avoir un chat avec moi, ben je ne pourrai pas être très productif et donc ça va me stresser. Donc, ce qui est intéressant dans la gestion, à la fois du stress, mais la gestion aussi de son emploi du temps, c'est de le voir lorsqu'on a une équipe d'une manière collective. C'est de le préparer avec l'équipe, voire même, si on est dans une entreprise, pourquoi pas, et ça c'est un de mes rêves, je vous en parlerai, mais c'est réellement d'avoir une gestion de temps collective et qui soit mise pratiquement dans la culture de l'entreprise. Parce qu'en fait, eh bien, gérer son temps d'une manière collective, ça va permettre d'être encore plus productif, performant, mais surtout sans s'épuiser et encore mieux, sans stress. Alors, nous avons vu comment reconnaître en fait les premiers signes avant-coureurs du burn-out. Nous avons également vu comment calmer son stress, même si c'est pour un moment. Ce qui est intéressant, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est de voir est-ce qu'il existe des moyens un peu préventifs pour éviter le burn-out. Alors, si j'avais su tout ça, j'aurais sans doute été moins stressé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait de burn-out, mais vraisemblablement que j'étais très prêt, parce qu'à ce moment, j'étais assez mal dans ma peau. Bref, ce que je vais vous dire, c'est des activités qui fonctionnent pour moi. Et la répétition est parfois un élément de communication, mais vous allez revoir certains éléments qu'on a déjà abordés aujourd'hui. Tout d'abord, c'est d'établir des limites. Des limites, je dirais, saines. Alors, ça va très facilement de dire, je définis clairement mes heures de travail. Quand est-ce que je commence et quand je termine. Et d'essayer au maximum de le respecter. Je sais, ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, si on est en entreprise, votre patron veut absolument vous voir, il y a un dossier qui doit absolument être terminé. Ok, vous pouvez avoir une règle, et il peut y avoir des exceptions. Mais essayez de respecter la règle. Et le deuxième point qui, moi, a changé ma vie, c'est d'apprendre à dire non. À un certain moment, quand la mule est chargée, ça ne sert à rien de lui en mettre plus sur le dos. Donc, s'il y a des demandes supplémentaires qui débordent réellement dans votre temps personnel, eh bien, il faut pouvoir dire non avec un sourire et surtout que la personne à qui vous avez dit non vous sourit toujours. Mais il faut en fait rester aligné avec vos objectifs principaux. Oui, il faut d'abord connaître ses objectifs. Ça, c'est vrai aussi. Mais bon, ce sera un autre sujet. Un point qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore aujourd'hui, parce que je ne suis pas dans une situation où je suis complètement hors du stress, hein, ça revient parfois, c'est de donner une priorité à l'activité physique. Et cette priorité, elle est très simple, elle est dans mon agenda. Je planifie pendant ma journée des activités d'exercice physique. Le matin avant de commencer, le midi une petite marche, le soir, une marche un peu plus longue, et notamment avec ma chienne. Donc, cet exercice va vous permettre d'éliminer une partie de votre stress, mais surtout de vous vider également l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Moins de pensées pendant qu'on fait de l'exercice. On est focus sur ce que l'on fait. Alors, je vous ai parlé de l'amélioration de la gestion du temps. C'est clair. C'est clair. Le fait de penser que l'on n'a pas assez de temps, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire, d'avoir des listes tout doux qui sont longues comme une journée sans pain, ça stresse. C'est clair, ça stresse. Donc, utilisez des techniques ou des outils. Il y en a toute une série, mais n'oubliez pas que ce sont que des outils alliés avec des règles. Et si vous voulez vous rappeler ces règles, j'ai fait 3 épisodes de podcast sur les règles d'efficience. Et ce que vous pouvez également faire dans votre agenda, c'est de réserver ce que moi j'appelle des blocs de temps, de telle sorte que vous sachiez clairement que tel et tel type d'activité, vous avez réservé du temps pour les faire. Et ça, vous allez voir, ça va soulager votre charge mentale, ne fût-ce qu'un petit peu, mais ça va déjà avoir son effet. Pas plus tard que l'épisode de la semaine passée, je vous ai parlé de long et en large de la délégation. Eh bien oui, c'est une manière, à un certain moment, quand vous pouvez le faire, de vous décharger sur d'autres personnes pour faire une partie de vos activités. Si c'est personnel, il y a d'autres membres de la famille. Si c'est au travail et que vous êtes salarié et que vous avez une équipe, les gens sur votre équipe. Si vous êtes entrepreneur, il y a toute une série de possibilités. Allez voir l'épisode précédent et vous saurez comment, à un certain moment, vous décharger de toute une série d'activités qui peuvent éventuellement vous stresser. On en a parlé également, planifier, et j'insiste, planifier du temps libre. Planifier des moments où vous n'allez pas travailler. Planifier des moments où vous allez vous rencontrer. Faites un rendez-vous avec vous-même. Et pendant cette heure ou cet après-midi, eh bien, vous faites ce que vous aimez, vous, et pas ce que quelqu'un d'autre aimerait que vous fassiez. Et donc, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je me suis accordé mon mercredi après-midi, comme quand j'étais à l'école, hein, on n'avait pas cours le mercredi après-midi, donc je me suis dit, mais voilà, le mercredi après-midi, c'est réservé à Jean-Claude, c'est-à-dire que je fais ce que réellement j'ai envie de faire. Il se peut que j'ai envie de travailler, eh bien je travaille, mais je ne travaille pas parce qu'il y a des choses à faire, je travaille parce que j'ai réellement envie de le faire, je peux aller me promener, je peux aller vaquer à d'autres activités, je fais réellement ce que j'ai envie. Et ça coupe la semaine pour moi en deux, ce qui veut dire que je suis beaucoup plus relax le jeudi pour avancer encore pendant 2 jours sur mes activités professionnelles. On ne parlera jamais assez du soutien de collègues ou d'un réseau. Il existe des réseaux d'entrepreneurs ou de personnes qui ont les mêmes affinités qui permettent de se soutenir et d'échanger, mais surtout des collègues. Peut-être pas les collègues avec qui vous travaillez directement, en dessous de votre de votre responsabilité, mais éventuellement des collègues qui ont le même niveau de responsabilité, qui gèrent également un département, qui gèrent une équipe. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger sur la manière dont on aborde un sujet ou un autre. Ce qui nous introduit la dernière partie, en fait, qui est l'environnement de travail, eh bien, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'entourage professionnel a réellement une influence sur vous. Imaginez que vous ayez un collègue qui, tous les matins, alors que vous êtes en super forme, vous voulez travailler sur vos dossiers, vous êtes super gonflé, vous venez d'écouter l'excellent podcast épisode de Jean-Claude, donc vous êtes prêt avec votre journée, et il entre dans votre bureau, et il n'arrête pas de se plaindre, et le gouvernement aussi, et tu sais que ce prof-ci, et tu sais que ce manager-là, et tu sais que... Et c'est continuellement des informations à connotation négative. Si vous continuez à l'écouter, qu'est-ce qui va se passer? Il va drainer d'abord votre énergie, et vous allez être vous-même, à un certain moment, en énergie très basse, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit émotionnelle. Et donc, ces personnes, elles sont à fuir. Trouvez une excuse. Allez dire, tiens, on va prendre un café, et puis quand vous avez le café, oh, j'ai oublié quelque chose, et vous retournez directement à votre bureau. C'est des petites techniques que j'ai utilisées. Ou simplement, dites que vous êtes occupé. Ne continuez pas à écouter ce flot d'informations qui va vous démoraliser. Surtout qu'il se peut qu'une grande partie de cette information n'est peut-être pas le reflet de la réalité. Donc je dirais, restez positif le plus que vous pouvez. C'est déjà parfois un challenge, pour ne pas dire un défi, de le rester soi-même. Ce n'est pas pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne et qui vous détruise complètement votre potentiel de positivisme. Alors, moi j'aimais bien, et j'aime toujours d'ailleurs, c'est de célébrer. Célébrer les petits succès. Célébrer les petites choses que nous avons faites. Et si en plus vous les célébrez avec d'autres personnes, avec des membres de votre équipe, quand un membre de l'équipe a fait quelque chose de bien, ou a réussi une activité particulière, ou a décroché un contrat, que sais-je, eh bien, célébrez. La célébration donne un vibe très positif à la fois à l'équipe et à vous-même, et ça vous regonfle pour la suite. Bien, on en a parlé suffisamment, je ne vais pas insister, prenez des pauses, que ce soit des pauses pendant la journée, que ce soit des jours de congé, que ce soit des après-midi que vous accordez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire, vous pouvez être actif, mais soyez actif dans un autre domaine, ça va donner aussi un break à votre cerveau. Si vous êtes gestionnaire d'équipe, ce que j'ai été pendant près de 30 ans, j'ai introduit, bien avant que ça ne vienne comme une obligation, suite à la pandémie de la Covid, j'ai proposé aux personnes qui travaillaient avec moi des options de travail flexible. J'avais un business analyst qui habitait près de la région de Liège, qui venait travailler à Bruxelles. Et il avait à peu près une heure et demie, si pas plus, de trajet. Mais de trajet pour venir et puis de trajet pour retourner. Et je vous parle de ça s'il n'y avait pas d'embouteillage. Donc ça lui prenait pratiquement 3 heures pour pouvoir venir. Donc la première chose, quand il me disait qu'il devait absolument être au bureau, eh bien j'acceptais soit qu'il arrive plus tard ou plus tôt, et qu'il reparte plus tard ou plus tôt. C'était très flexible à ce niveau-là. J'étais conscient qu'il essayait simplement de ne pas perdre trop de temps sur ses trajets suite au trafic. Mais ce que je lui ai proposé très rapidement, c'est-à-dire si tu as été dans une usine à un certain moment, parce qu'il travaillait dans les usines pour analyser les besoins des utilisateurs des chaînes de production, par exemple, et le lendemain, il devait simplement faire son rapport pour qu'on puisse avancer. Et généralement, un rapport de cette ampleur, après une semaine de travail en usine, ça vous prend à peu près une journée. Donc, je lui ai dit, au lieu de venir au bureau, reste chez toi. Fais ton rapport et puis nous le verrons le jour. Si tu viens juste au bureau, tu vas perdre 3 heures de temps sur les routes, simplement pour rester dans ton bureau à taper sur ton ordinateur. Bien sûr, nous n'avions pas à l'époque, je vous parle de cela, c'était fin des années 90, l'ensemble des communications n'existait pas encore. Mais bon, si on avait le téléphone, hein, un téléphone sans caméra. Donc c'était réellement un téléphone pour téléphoner. Mais voilà, je dis, si jamais nous avons besoin de quelque chose, je peux te contacter. Et j'avais son numéro de téléphone à l'époque, on avait son numéro de téléphone à la maison. Parce que les mobiles n'étaient pas encore aussi bien répandus qu'aujourd'hui. Et donc, j'ai permis, à un certain moment, qu'il puisse choisir lui-même l'heure à laquelle il arrivait et repartait, en fonction du nombre d'heures qu'il avait à prester, et ça j'avais complètement confiance en lui, voire même de dire, eh bien écoute, si c'est pour faire ce genre de travail, tu peux rester simplement chez. Voilà. C'est une possibilité que j'ai offert, ce qui est assez particulier avec cette personne, c'est qu'il avait compris qu'il avait aussi besoin d'être en contact avec ses collègues, et donc il préférait malgré tout venir, il n'a pas abusé de cette possibilité-là, mais cette possibilité était offerte, c'est-à-dire que s'il désirait venir au bureau, ça devenait sa décision et pas la mienne. Et donc ça, c'était au niveau stress et mental, très très intéressant. Alors, j'aimerais conclure cette partie sur l'environnement de travail. C'est en fait une responsabilité partagée. Dans mes approches, j'ai toujours essayé de mettre ce qui était le maximum que je pouvais faire et que la société pouvait faire pour réellement avoir un environnement le plus agréable, le plus sain possible pour les équipes. En mettant par exemple des stratégies, mais en organisant les bureaux de la manière qui a été la plus adéquate pour les gens qui y travaillent. Mais également, il y a une partie de responsabilité et de prise en charge des membres également. C'est-à-dire que lorsqu'il pouvait y avoir des conflits, et ça, les conflits, c'est aussi une source de stress pour les personnes, eh bien, on essayait toujours, et on réussissait, à les régler d'une manière collégiale et surtout en communiquant. Et donc, j'avais installé deux types de réunions. Les réunions du matin, très rapidement, est-ce qu'il y avait quelque chose qui devait recevoir mon attention particulière aujourd'hui? Et toutes les semaines, nous avions une réunion d'équipe qui permettait de voir des choses un peu plus profondes et de discuter s'il y avait des points à traiter plutôt sur le long terme. Et j'ajoutais à cela, en fait, c'était une des réunions d'équipe une fois par mois était pour faire un point sur la situation, sur les objectifs et les nouvelles directions. De telle sorte que l'ensemble de l'information était toujours disponible pour l'ensemble des membres de l'équipe. Et ça, ça a été très très apprécié. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus qui stresse quelqu'un de ne pas savoir ou de ne pas avoir l'information adéquate. Le voyage que moi j'ai appelé le voyage vers la maîtrise du stress, si on peut le maîtriser, je pense que c'est possible de le maîtriser. Hein. Il n'y a pas, encore une fois, souvenez-vous, il n'y a pas de raison valable d'être stressé, du moins par le temps. Et finalement, peut-être d'avoir une prévention du burn-out, c'est quelque chose qui est très personnel et qui est unique, unique comme vous. Donc ce que je vous ai partagé, ce sont des stratégies, et notamment l'histoire de Elon Musk, qui ont fonctionné. Pour moi, je vous offre en fait ces outils et ces inspirations, mais ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, c'est réellement de trouver ce qui résonne avec vous et ce qui va réellement s'aligner avec, par exemple, vos valeurs, votre vision de la réussite. Et c'est surtout de se rappeler que prendre soin de soi, prendre soin de vous, c'est pas du tout un acte égoïste. Parce que surtout quand on est entrepreneur, le jour où vous êtes malade, il n'y a plus rien qui fonctionne. Si vous êtes seul. Ce qui veut dire que c'est réellement la fondation sur laquelle repose votre capacité à apporter réellement une contribution à votre entreprise. C'est votre corps qui vous supporte. Et que ce soit maintenant votre entreprise en tant que société, votre entreprise en tant qu'entrepreneur, votre équipe, mais voire même au monde qui vous entoure, c'est important de prendre soin de soi. C'est par là que tout se passe. C'est une quête, c'est un peu comme un fil de feriste, il faut continuellement poursuivre cet équilibre. Il est, je ne vais pas dire que c'est un équilibre instable, mais c'est un équilibre fragile. C'est celui en fait du bien-être, hein. C'est de bien se sentir dans ce que l'on fait. Je sais que ce n'est pas uniquement la définition du bien-être. Hein. Mais si vous dirigez une équipe, c'est réellement un acte, je dirais, de grand leadership. De se préoccuper et surtout de s'occuper de la santé à la fois mentale et émotionnelle dans le cadre de votre travail. Je dis bien dans le cadre de votre travail, de vos employés. Alors, il est très difficile de faire la différence entre la vie privée et la vie professionnelle, mais simplement, mon rêve, c'est que nous, en tant que managers, nous faisons un maximum, réellement un maximum, pour que ce qui se passe pendant les heures de travail, les heures du bureau, mais même en dehors du bureau, se passe du mieux possible et surtout que ce ne soit pas quelque chose qui apporte un complément de stress. Alors, j'aimerais terminer en vous demandant, maintenant, tout de suite, si je peux me permettre, c'est de prendre un moment. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que l'on vient de discuter et de dire, tiens, quelle partie de cet épisode je vais pouvoir mettre en place? Simplement, est-ce que je vais voir où je me situe dans mon stress, comment je peux réduire directement mon stress, Est-ce que je peux mettre en place des stratégies qui vont me permettre d'éviter le burn-out, que ce soit finalement simplement de décider de mettre des limites claires entre travail et vie personnelle, ou bien d'expérimenter la méditation, maintenant que j'ai un peu levé le voile sur cela, ou de vous engager à prendre des congés, ou comme moi, un mercredi après-midi. Qu'est-ce que vous allez faire réellement? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dès demain? Voilà. Si vous désirez le partager avec moi, ce sera un plaisir, on peut même en parler. Ben, je vous rappelle, bien entendu, que vous pouvez toujours me contacter via le site www.oruposa.com ou en envoyant un courriel à jaime@oruposa.com. Voilà, je serai très heureux d'entendre vos commentaires, mais je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode qui est un peu plus long, ben, même beaucoup plus long que tous les autres. À très bientôt, à la semaine prochaine, pour une autre aventure sur quelque chose qui va réellement changer notre relation au temps, un autre regard sur votre temps et surtout, surtout, une vie tant professionnelle que personnelle, moins stressée et plus sereine. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante jaime@oruposa.com. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. À très bientôt. Au revoir.